Il existe des hommes et des femmes, soldats de fortune, des mercenaires envoyés en terrain hostile pour amener un changement de régime afin que les armées d'employés apprennent de nouvelles méthodes d'attaque. Nous recevons par satellite depuis une jungle urbaine qui refuse de divulguer Pablo Pernaud, agent provocateur, terroriste mercenaire né à Cuba, marxiste tendance Groucho, membre du Banjos Vista Social Club et accessoirement coach en agilité chez Binext.
CPU carré petit utile.
Pablo, comment es-tu venu à l'agilité? Et je ne parle pas que l'agilité corporelle.
Moi, je suis venu à l'agilité en accompagnant des projets, en tombant dans l'absurdité ou le bullshit de certains modes de fonctionnement et en regardant ce qui pouvait se faire de différent. Et comme beaucoup, je suis tombé sur en 2005 ou 2006 sur ce petit opuscule de Henrik Nyberg qui s'appelait XP et Scrum dans les tranchées. En 2001, on m'avait pas mal poussé à faire de l'extreme programming, mais à l'époque, j'étais admin système. Et l'extreme programming, c'était vraiment pour les devs, donc j'avais pas franchi le pas à ce moment-là.
Et toi, ça t'a intéressé en tant que révolutionnaire patenté
Non, ça m'a intéressé en tant que personne dont j'espère qu'elle a de bonnes intentions et une bonne attitude. Donc ça m'a intéressé de réussir les choses sainement.
Les méthodes agiles impliquent des changements assez importants par rapport à l'organisation traditionnelle et très verticale des entreprises traditionnelles. Quelles sont les différentes formes de changement pour une entreprise si elle s'engage sur cette voie?
Alors, je te donne quand même une grille de lecture que j'utilise habituellement avant même de parler agile ou non agile. Parce que ce type de question, je réponds souvent, une entreprise, elle doit se poser la question de savoir si elle est dysfonctionnelle et elle veut devenir fonctionnelle, quel que soit son type de fonctionnement. Elle peut être devenue dysfonctionnelle parce que elle a commencé à crouler sous ses habitudes, elle a commencé à se fossiliser dans ce qu'elle était, et le monde a continué à bouger autour d'elle, donc elle est devenue dysfonctionnelle, elle veut se revitaliser dans un certain sens et redevenir fonctionnelle. Ou, un truc plus... le grand saut, entre guillemets, elle veut vraiment avoir une disruption et se transformer. Il y a ces deux choses. Donc, après une entreprise classique qui deviendrait agile, quels seraient les changements que ça amènerait? Ça amène des changements dans l'autonomie et la responsabilisation des personnes. Ça amène des changements dans la posture managériale pour accompagner cette autonomie et cette responsabilisation des personnes. Il y a un besoin de changement de posture managériale et ces deux choses entraînent un changement organisationnel, la façon dont sont agrégées les personnes, les équipes et les groupes d'équipes.
Quand tu as voulu mettre en pratique les méthodes agiles dans l'organisation qui, à l'époque, t'employait, comment tu les as persuadées pour y aller? La méthode gentille, celle des lendemains du soir qui chante ou la méthode terroriste? Je te connais un peu, hein. Alors... c'est pour ça que je peux me permettre de rappeler tes antécédents.
Non mais détrompe-toi, j'ai une image de provocateur et de terroriste, mais les gens sont assez surpris de ma subtilité sur le terrain. Ils me traitent plus de Machiavel ou de Littlefinger, si tu veux tout savoir. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, démarrer n'est sûrement pas le plus difficile. Souvent, quand on se dit on va essayer, il y a un parfum de nouveauté. Quand on dit on va faire des pilotes, on se récupère les gens qui ont un élan, qui ont envie d'essayer. Et généralement, les débuts ne sont pas compliqués. De démarrer, c'est premiers mois. Là où on se prend un mur, c'est quand tout d'un coup, les pilotes se mettent à marcher. Et contrairement à ce qu'on croit, les pilotes ne sont pas représentatifs de ce qui va se passer ensuite. Et là, par contre, quand une organisation qui ne veut pas vraiment changer, tout d'un coup se rend compte qu'il y a quelque chose qui se met à démarrer, et là, elle perçoit, entre guillemets, le danger sur une remise en question de ses habitudes, le danger sur une remise en question de son organigramme ou de la prise de décision. Et là, il y a un saut qui est beaucoup plus difficile. Alors effectivement, au début, je pouvais y aller un peu en mode rebelle, en provoquant l'engagement par la provocation, comme un de mes amis m'a dit récemment. Et en fait, on apprend assez rapidement que l'on n'emmène pas une organisation où elle ne veut pas aller. Donc, il est très important, effectivement, d'être confrontant. Confronter, c'est pas un combat, c'est pas une bataille, c'est pas négatif, mais c'est de dire des vérités à haute voix, enfin de dire ce que l'on pense être certaines vérités à haute voix, on peut se tromper, et de confronter les gens par rapport aux questions qu'ils nous ont posées et aux réponses qu'ils entendent et le fait qu'ils eux-mêmes entendent ou pas nos réponses. Mais par contre, si on voit que l'entreprise ne veut pas, je suis plutôt maintenant d'avis de dire aux gens, ben, ne perdez pas votre temps, la vie est trop courte. J'ai une grille de lecture qui me vient de la spirale dynamique que j'aime beaucoup et qui dit il y a trois types d'entreprises, d'organisations. Il y a les entreprises, les organisations ouvertes, les organisations arrêtées, les organisations fermées. En gros, ouvertes, elles veulent bouger, elles veulent avancer. Arrêtées, elles veulent avancer, mais tu comprends, c'est pas possible parce que oui, il faudrait faire, mais tu comprends, c'est pas possible parce que. Et fermées, elles ne veulent pas bouger. Alors les fermées, il faut arrêter de perdre son temps avec. Soit elles sont fermées à tout jamais, soit en tout cas, c'est pas le moment de bosser avec. Je vais pas essayer de faire du disruptif. Enfin, elles ne sont pas prêtes à faire un gap énorme, à faire du disruptif. Par contre, elles sont peut-être prêtes à faire du dysfonctionnel, voire du fonctionnel. Et peut-être que ça va les pousser à devenir ouvertes. Mais on peut faire de la provoque, mais pas trop longtemps. On va s'user pour rien et on peut faire du mal. Donc, en tout cas, à un moment, il faut que ça gratte quand même un peu. Je ne crois pas à un coaching qui n'est que agréable. Je ne crois pas au consensus. Je ne crois pas à quelque chose où tout le monde est d'accord. Donc, par contre, si l'entreprise n'est pas d'accord pour bouger, on arrête. Mais on essaie d'être confrontant. Et je rajoute une chose. Dans la question quel type d'attitude face à ces changements d'entreprise, j'ai d'abord cru qu'il fallait un Big Bang assez fort. Puis j'ai arrêté d'y croire. Je me suis dit, finalement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se répande peu à peu. Et depuis 2 ans, j'ai recommencé à croire que la bonne solution était le Big Bang. Pourquoi ? Parce que donc le pilote, c'est pas représentatif, mais il faut quand même démarrer avec un pilote. Puis généralement, après, on essaye une phase qui, elle, est beaucoup plus significative sur un département ou quelque chose de plus significatif. Et là, il y a une difficulté de changement qui est l'entreprise ne va pas rester entre deux eaux, ne va pas rester au milieu du gué. Si on reste au milieu du gué, on va perdre une énergie énorme à faire cohabiter ces deux modes de pensée, ces deux systèmes qui ne se ressemblent pas. Donc, ma reco maintenant, c'est effectivement, au-delà du pilote, il ne suffit largement pas. Quand on a basculé sur un département ou quelque chose de significatif, après, il faut vraiment basculer sur un Big Bang. Je peux te compléter ça, les gens vont avoir peur d'un chaos. J'aime beaucoup dire qu'il y a deux chaos. Il y a le chaos qui est négatif à mes yeux, qui est il y a une entreprise qui est scindée en deux, qui ne réussit pas à faire son choix et qui fait cohabiter deux états d'esprit, deux systèmes. Et ça, c'est un chaos qui est usant parce qu'on le subit. Mais si l'entreprise décide de faire ce Big Bang, elle va... Alors, naturellement, je ne vous demande pas de faire un Big Bang sur 8000 personnes, ça n'a pas de sens. Mais vous faites des gros Big Bang par grosses divisions significatives. Il y a aussi un chaos, mais c'est un chaos positif. De toute manière, s'il n'y a pas de chaos, c'est que vous ne changez rien. Et là, c'est un chaos positif dans le sens où on a acté qu'on avait basculé et maintenant, on n'arrête pas de se poser des questions sur comment se réadapter à cette nouvelle façon de faire. Donc, il y aura du chaos, mais à savoir si vous voulez un chaos négatif, vous n'êtes qu'en réaction, qu'à le subir, ou un chaos positif qui est vous êtes qu'à vous réadapter, réapproprier ce nouveau schéma.
Ok, alors si on parle de personnages chaotiques, je voulais savoir s'ils étaient loyaux ou s'ils étaient démoniaques. Mais bon, ça, c'est mes vieux restes d'ADD.
Non, je te réponds parce que la question, elle arrive souvent, en tout cas, de quel type on est. On pense que globalement, un coach agile, c'est du chaotique bon. Hein, parce qu'il ne peut pas être loyal, ça voudrait dire qu'il appliquerait systématiquement le même système et qu'il aurait des croyances beaucoup trop fortes. Or, un coach agile, il est confronté à des environnements complexes qui ne sont jamais les mêmes. Donc, il est forcément chaotique. Et on espère qu'il est bon, parce qu'il va... on espère qu'il y a ce côté naïf, le bon côté de la naïveté dans lequel il veut un monde meilleur.
Toi-même, justement, continuons notre fiche de personnage AD&D. Comment tu es passé en fait d'administrateur système à coach agiliste?
Alors à l'époque, je travaillais pour une sorte de start-up, on va dire, principalement. Et cette start-up, c'était une vraie start-up, c'est-à-dire celle qui a 75 millions d'investissements, zéro de bénéfices, mais qui décide de s'acheter une villa avec piscine, avec on garde le restaurant, on garde le cuisinier et on se fait la salle jeux vidéo et on décore. Bon, la vraie start-up. Bon, au bout d'un moment, la réalité a rattrapé cette start-up. Et donc, il y a eu un management buyout et on a gardé que, il y a eu que 10 personnes qui sont restées et les gens qui ont fait ce rachat ont décidé de me garder, ce qui est plutôt bon signe. Mais à 10, on doit commencer à être beaucoup plus protéiforme. Moi, ça me dérange pas du tout. Et à 10, j'ai commencé à m'occuper beaucoup plus de relations clients, de suivi client, d'avant-vente, d'après-vente et finalement de suivre les projets. Suivant les projets, je me suis interrogé beaucoup sur comment fonctionnaient les projets, comment fonctionnaient les équipes, comment fonctionnaient ces dynamiques. Et c'est ça, de fil en aiguille, qui m'a amené sur ces approches agiles.
Revenons à l'entreprise où il y a quelque chose qui se coince. Pourquoi le salarié de base n'est pas écouté alors qu'il dit exactement la même chose que le coach payé très cher la journée de consultation?
Je ne suis pas sûr que le salarié de base dise la même chose que le coach. D'accord. Le salarié de base, je ne vais pas rajouter de base. Le salarié, il a sa perspective. Le coach, c'est pas le porte-parole du salarié. Le coach, c'est le porte-parole de la volonté de l'entreprise. Et la volonté de l'entreprise, elle peut représenter le top management, le middle management, comme le salarié. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des salariés, beaucoup, qui voient beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la gadoue, sur le terrain. Et il y a toute une partie des gens, ceux du top management sont sur un autre terrain. Le salarié ne perçoit pas toute la gadoue du top management. Si tu veux, chacun perçoit sa gadoue. C'est là où je dis que le coach, il n'est pas que le porte-parole du... En tout cas, c'est pas que celui qui va porter les problématiques de gadoue du salarié, c'est aussi le porte-parole qui va porter les problématiques de gadoue du top management. Au milieu, il y a le middle management qui est un cas plus particulier, qui, lui, a atteint un stade dans la chaîne alimentaire qu'il trouve bien, mais il a peur qu'il change, donc lui, il se sécurise plutôt qu'autre chose. On trouve toujours que le middle management est un problème, mais le middle management, c'est celui qui va avoir le plus de mal à retrouver un emploi équivalent ailleurs. Généralement, en tout cas, dans le domaine informatique. Là, je fais quasiment plus d'informatique en accompagnement. Mmh. Et dans le domaine informatique, les codeurs, autres personnes qu'on appelle salariés, ils trouvent assez facilement un nouvel emploi et à salaire équivalent. Le middle manager, il ne trouve pas forcément le même emploi à salaire équivalent. Le top manager, la France est ainsi faite que souvent, c'est des réseaux qui fonctionnent. Et alors, pour répondre à ta question, parce que j'ai pas forcément répondu, naturellement, quelqu'un que tu payes beaucoup plus qu'un interne, les gens qui sont prêts à payer ce chiffre, c'est souvent pas le middle management qui peut le demander, c'est le top management. Donc, tout d'un coup, il y a une réalisation qu'il y a des problèmes dans plein de couches. C'est le top management qui réalise qu'il y a des problèmes à tous les niveaux et qui, du coup, va se mettre à écouter. Puis, il n'y a pas de parti pris, il y a une neutralité. Moi, si, quand j'accompagne une organisation, je la coach. C'est-à-dire que j'arrive avec 50% de bonnes réponses, 50% de mauvaises. Je dis ça aux gens. Hein. Parce qu'il y a 50% qui sont très, très contextuels et il va falloir que l'entreprise émerge avec ses propres façons de faire. Et j'arrive pas avec des solutions, j'arrive avec des principes. J'arrive pas avec des réponses, j'arrive avec des principes. Je leur dis voilà les principes. Et il y a beaucoup de choses qui vont bouger chez eux. Si je vois qu'ils ne m'écoutent pas, je m'en vais. Le salarié, il est dans une position beaucoup plus compliquée parce que s'il ne cesse de dire il faudrait faire ça, il devient l'emmerdeur, il devient l'empêcheur de tourner en rond, donc on ne l'écoute plus. Et en même temps, s'il dit plus rien, on l'écoute plus, donc c'est difficile pour lui de trouver un curseur, c'est difficile de garder ce curseur sur la durée. Alors que le coach, on le paye pour un ensemble de jours, donc on l'écoute, et en plus, si on l'écoute pas, il dit ciao, et en plus, il n'est pas là très longtemps généralement.
As-tu connu l'excès inverse, c'est-à-dire trop consulter de personnes extérieures, de consulting, de coach et tout ça, et finalement n'arriver à prendre aucune décision?
Alors, je ne vais pas le décrire comme ça, mais oui, il y a naturellement des... Je vais le lire différemment. Je vais essayer de te donner deux, trois observations. Naturellement, il y a des entreprises qui entendent que agile. Agile, à part développeur, je ne vois pas ce qu'il y a de plus galvaudé que agile comme mot. Hein. Donc, agile ne voulant plus rien dire. Enfin, en tout cas, agile étant mis à toutes les sauces et étant très à la mode, il y a beaucoup d'entreprises qui s'équipent, comme de l'électroménager, qui s'équipent d'un ensemble de gens appelés coach ou scrum master ou autres, qui les disséminent dans leur organisation et qui disent « ça y est, on est agile ». Donc, plus ils en mettent, moins ils écoutent. Enfin, plus ils en mettent, plus ils disent « c'est bon, c'est fait ». Donc, du coup, on n'a rien à changer. Donc ça, je l'observe. Alors, il y a deux écoles et je ne sais pas laquelle a raison. J'ai un avis, mais celle-là, c'est typiquement un lieu où je peux me tromper. Mais il y a différents types de coaching. Le coaching que je fais, c'est plutôt accompagner des exécutifs. Je peux pas être là full time, ça n'a pas de sens. Et même quand je vais accompagner des équipes ou des ensembles d'équipes, faut laisser un espace. Trop d'accompagnement, trop de présence empêche les gens de prendre cet espace ou tombent dans l'erreur d'un coach qui fait ou qui amène des solutions. Un coach, il rappelle un mindset et il laisse les gens s'en emparer en avançant avec eux. Après, bon, effectivement, il y a des coachs qui vont me dire, moi, je suis coach d'équipe, donc du coup, j'ai besoin d'être là pour vraiment m'immerger et je suis full time. Bon, c'est pas ma façon de faire, mais pourquoi pas.
Régulièrement, dans les conférences, sur LinkedIn, dans tes blogs, tu incites à exposer son originalité et toi-même, d'ailleurs, tu fous le why. J'ai des souvenirs assez émus du bordel que tu mets. C'est très instructif. Est-ce indispensable pour décoincer les autres?
Je dis beaucoup, personne n'est dupe. Tu sais, on est dans une entreprise, tout le monde sait que ceci ne devrait pas plus fonctionner comme ça. Tout le monde sait que ceci ou que cela. Personne ne le dit. Parce que tout le monde veut préserver une paix sociale et en fait, à mes yeux, pas dans toutes les entreprises naturellement, dans certaines, à mes yeux, on est en train d'enterrer vivante l'entreprise. Et je te parlais de confrontation tout à l'heure. Le chaos, je l'aime bien parce que on peut confronter les gens à des choses différenciantes. On peut confronter les gens à des nouvelles façons d'aborder et je pense qu'il faut les confronter. J'aimerais qu'on sorte de personne n'est dupe, mais tout le monde fait comme si. Et donc c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le chaos, on parle beaucoup d'émergence, il n'y a pas d'émergence, il n'y a pas de chaos. Je rappelle que le chaos n'est pas négatif, il y a un chaos positif où tout d'un coup, on reconstruit des choses, ça réémerge rapidement, etc., etc. Oui, je fais de la provocation par de l'engagement, tu vois. Et j'aime beaucoup l'école de coaching qui va faire de l'injonction paradoxale. Non, mais allez-y, continuez à faire des projets sans vous préoccuper absolument de savoir si votre produit est utilisé ou pas. Vous avez raison, tant que ça marche, continuez. Enfin, là, j'ai pas un bon exemple parce que c'est hors contexte. Faut que ce soit bien fait dans le contexte. Mais les injonctions paradoxales, c'est une chose que je vais aimer. Et puis tout le monde est grand et intelligent, donc autant se dire les choses sans que ça devienne sanglant et saignant, sans creuser un problème. Donc, faire attention, pas faire une guerre civile. Autant dire les choses, trouver le ton pour les dire, qu'elles soient confrontantes sans qu'elles soient destructrices. Donc, un sort de chaos salvateur.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Pablo Pernaud, agent provocateur et coach agiliste pour Binext. Pablo, as-tu toi-même vu le culte du cargo?
J'ai pas de détails qui me viennent, mais oui, j'ai vu plein de gens essayer de reproduire comme s'ils avaient vu des ombres, des gestes, mais ils en ont perçu que les ombres. Il faut bien commencer par du mimétisme, souvent, pour apprendre. Ça ne me choque pas. Comme l'exemple que j'évoquais précédemment, il y a des entreprises qui vont répliquer de façon factice une lecture très superficielle de l'agilité juste pour dire ils sont agiles. Ça, c'est une chose. Il y a des gens qui vont essayer de reproduire ce qu'ils en ont compris. Et il y a des gens qui réussissent très bien, il y a des gens qui n'y réussissent pas. Et on a des choses qui tournent à vide sans raison. Il y a aussi une autre lecture que je peux faire. Donc moi j'aime beaucoup la spirale dynamique, donc je vous encourage à essayer de lire la spirale dynamique de Cowan et Beck, ou je sais il doit y en avoir en français. C'est des niveaux d'adaptation à la complexité du monde. Il y a un niveau qu'on appelle bleu, où les croyances des gens, c'est vraiment, c'est un peu le niveau de l'armée, du Vatican, des grandes religions, des grandes bureaucraties, des grandes organisations. Ça se fait comme ça, c'est ainsi qu'il faut faire. Sur ces organisations-là, il faut s'assurer que le message vienne du haut, qu'il soit porté comme si c'était une nouvelle loi, si on veut avancer avec elle. C'est leur culture, hein, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est leur culture. Elle peut être fonctionnelle ou dysfonctionnelle. J'ai vu des choses rigolotes dans l'application bête et méchante, hein, entre guillemets. Par exemple, donc on demande pendant un moment de faire un Kanban, donc c'est un tableau, un Kanban portfolio. C'est un tableau qui met en évidence tous les projets en cours du département. Et il y a de la résistance. Donc on passe par le levier qui est le top manager qui dit oui, faisons ce tableau. Ok, donc là du coup le tableau il apparaît d'un coup. Puis on essaye pendant 3 mois. Très clairement il ne fonctionne pas. C'est un échec. Donc on dit bon ben on va enlever le tableau. Ah non, sûrement pas. ça m'a beaucoup fait rire. L'intérêt n'est pas le fond du tableau. L'intérêt c'est l'application de la loi avec un grand L. Donc le chef dit oui, on fait le tableau. Il ne marche pas. On dit, vous voyez bien, il marche pas. Non, il marche pas. On va l'enlever. Ah non, sûrement pas. Et ça, c'est le dernier que j'ai en mémoire qui m'a beaucoup.
Sans compter l'avancement religieux, quasi religieux de chaque post-it. J'imagine.
Donc le cargo culte, il est protéiforme. Il y a du bon mimétisme, il y a du mauvais mimétisme. Il y a de la reproduction du livre de la loi parce que c'est notre destinée. Il y a plein de choses en cargo culte. Mais c'est très vrai.
Et finalement, comment on fait pour en sortir, justement, quand on repère ce genre de rite absolument stupide et improductif?
Ben on essaie de ramener la question au sens et à l'identité de l'entreprise. Quand on reproduit des choses, c'est qu'on est dans le geste. On ne doit pas être dans le geste, on doit être dans le cadre, dans le sens, dans le pourquoi, donc on essaie de ramener les questions au sens, à l'identité de qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le veut. Et là, dans ce cas-là, toutes les pratiques, toutes les capacités sont revues au regard du sens que l'on souhaite, au regard de l'identité que l'on a. Il faut réussir à déplacer le débat sur le sens et sur l'identité.
Y a-t-il une taille critique où, quoi que tu tentes, l'information du salarié qui a la main dans le cambouis n'a quasiment aucune chance d'arriver à remonter tout en haut? Je t'oblige pas de citer Renault-Nissan. C'est un exemple.
Tu vises juste. j'ai fait une conférence, je ne sais plus si c'était à l'automne là ou au printemps l'année dernière, sur une grosse structure française qui, à la fin de la conférence, question-réponse, elle me dit « Bon, comment est-ce qu'on fait pour transformer une entreprise de 70 000 personnes ?»
On commence à supposer pour chez qui tu l'as fait. Et tu commences à dire « Ah ouais, quand même, là !»
Donc là, naturellement, il n'y a aucune réponse possible pour transformer 70 000 personnes. On doit nécessairement ramener les choses à une taille qui est viable. Et une table qui est viable, bon, tu le sais déjà, moi j'ai beaucoup comme principe d'utiliser le chiffre de Dunbar, hein, ce sociologue qui a montré que les villages préhistoriques se scindaient entre 150 et 220. Donc ça, c'est un chiffre, et tu peux agréger une dizaine, une quinzaine de ces villages. Donc, à mon avis, on va jusqu'à 2-3 000. Donc, une organisation de 70 000 personnes, c'est un agrégat de 2-3 000 qui eux-mêmes probablement s'agrègent à 15-20 000, à 5-6, et qui arrivent à ces chiffres-là. Mais mes observations, c'est que 2-3 000, ça commence à être un chiffre un peu limite. Et après, tu peux avoir une entreprise qui fait 20 000 personnes, mais c'est des agrégats d'agrégats. Tu vas pas remonter une information d'un salarié jusqu'au top manager des 20 000 personnes. Tu vas remonter une information d'un salarié jusqu'au COMEX de 3 000, ça commence à faire beaucoup même, tu vois, un COMEX de 1 000, 2 000, après ça va être dur. Hein. Mmh. Mais par contre, il n'y a pas de sens de remonter cette information tout en haut. Normalement, si l'organisation est bien structurée, les problématiques du salarié sont à la main du salarié pour qu'il puisse les résoudre lui-même s'il est capable de respecter le cadre et l'identité et le sens de son organisation.
Donc, s'il a une marge d'autonomie. Quelle taille d'entreprise t'appelle le plus souvent, justement ? Est-ce que c'est plus de 1000 salariés ou c'est moins de 5 ? C'est lesquels qui... Enfin, bon.
C'est des grandes entreprises, par le nombre, et des fois par plein d'autres choses. Mais c'est des entreprises de grande taille. Primo, parce que les startups de 10 ou 7 personnes, elles se disent, à tort, je ne vais pas investir dans un coach agile, on n'en a pas besoin. Je dis à tort, parce que j'ai une ou deux expériences là-dessus, elles se sont révélées très positives. Oui, voilà, d'habitude, c'est les grosses structures qui font appel à nous. Par contre, on n'aborde pas la structure, on n'est pas confronté à 2000 personnes, on est confronté à un département, on est confronté à un CODIR qui lui-même a un département de plusieurs centaines de personnes. D'habitude, le scope, c'est plusieurs centaines de personnes, et s'il fonctionne, là, justement, on va l'étendre à ce chaos positif que j'évoquais de quelques milliers. Et pas beaucoup plus.
Est-ce qu'il y a des secteurs industriels qui te semblent plus intéressants à travailler que d'autres ?
Non. Et je pense que la volonté de travailler dans tel ou tel secteur industriel est un faux ami. Il faut se laisser surprendre. Et puis comme je te dis, je vais avoir un CODIR qui va faire appel à moi, qui va me parler d'un département de plusieurs centaines de personnes plutôt, même si après c'est censé se répandre à plusieurs milliers, les départements dans des grosses structures peuvent être très différents entre eux. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, tu vois, si je caricature, travailler dans les médias et dans la culture, ça va être funky et sympa, et travailler dans les banques, ça va être chiant. Eh bien, ce n'est pas forcément vrai. De mes expériences, ce n'est pas forcément vrai. Et je ne sais, mais par contre, je ne vais pas te dire que ça va être plus funky de travailler dans les banques, finalement. Non, ça va vraiment dépendre. Donc, une chose qui est, à mon avis, importante, c'est de se garder de ses a priori. Après, on peut avoir des... On peut décider de ne pas travailler pour... Je vais ne pas travailler pour des domaines d'activité qui sont pas en accord avec ses valeurs. Mais c'est autre chose. Et donc, non, je recommande de ne pas avoir d'a priori.
Est-ce que, puisqu'on parlait justement de la marge de manœuvre du salarié et d'essayer de relancer, je vais dire, un petit peu de vivacité et de création au sein d'une entreprise, est-ce que les concours d'innovation, les hackathons, ça peut aider ou au contraire, ça peut frustrer les équipes qui sont en place ?
Alors, je vais te faire deux réponses, parce que la première, c'est pas forcément ta question, mais j'ai pensé à ça en t'écoutant parler des propositions du salarié. Le salarié sous-estime quasiment tout le temps sa capacité à changer les choses. Pourquoi ? Parce qu'il pense à chaque fois justement que ça doit être une approche révolutionnaire ou une approche frontale ou une approche globale. Or, tu parlais de combat, je vais reprendre le terme combat. Ces combats se gagnent par petites escarmouches, par des petits morceaux de terrain gagnés peu à peu pour que le salarié, pour reprendre ton mot, puisse transformer les choses. Il faut qu'il soit autorisé. Pour qu'il soit autorisé, il ne faut pas qu'il demande l'autorisation. Pour pas qu'il demande l'autorisation, il faut qu'à chaque fois, il gagne du terrain sur des petits espaces et qu'il montre ce qu'il a gagné. Et là, il rentre dans un cercle vertueux qui peut commencer à faire changer les grandes choses. Les grandes choses se mettent à bouger. En fait, c'est les détails qui font bouger les grosses choses. Et c'est pas quand on attaque des gros chantiers que les grosses choses bougent. Après, sur l'innovation, je pense qu'on sait tous que quand l'innovation est ramenée à un département innovation, ben, on a tué l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose qui doit être disséminé partout dans l'entreprise. Chaque membre de l'entreprise devrait avoir une capacité à pouvoir porter une innovation dans son entreprise. Pourquoi ? Parce que l'innovation, elle vient du quotidien, d'être confronté à des situations quotidiennes et de tout d'un coup trouver... L'innovation, c'est pas l'invention. L'innovation, c'est de croiser, de mettre les choses dans des nouvelles perspectives et d'amener des nouvelles façons de faire. Donc, dans le quotidien, c'est dans le quotidien de chacun que tout d'un coup, il y a l'innovation. Et c'est pas des départements innovation. Donc, du coup, est-ce que les hackathons sont intéressants ou pas ? Est-ce que les journées d'innovation sont intéressantes ou pas ? Elles peuvent l'être. Si elle concerne les gens qui ont un quotidien et qui soudainement En tout cas, si on leur montre qu'on attend ça d'eux. Par contre, au bout d'un moment, il ne faut pas se dire que c'est juste le premier vendredi du mois qu'on peut avoir des idées. Elles servent pour montrer aux gens que c'est dans leur quotidien qu'on va puiser l'innovation. Et au bout d'un moment, il faut peut-être s'en sortir et la ramener à quelque chose de plus continu.
Et c'est sur ces révélations fracassantes que nous effectuons une pause musicale. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Pablo Pernaud, agent provocateur et coach agiliste pour Binext, pour parler de transformation, transmutation, phénixon, une entreprise quoi. Quel est le plus gros facteur paralysant à un changement ? La peur d'un dérapage budgétaire ou la remise en cause de l'ordre établi ?
La remise en cause de l'ordre établi. Si les dérapages budgétaires étaient un problème, ça fait longtemps qu'on aurait arrêté de nombreux projets. Naturellement que c'est la remise en cause de l'ordre établi. C'est en haut de la chaîne alimentaire qu'on va avoir les leviers, les appuis ou les freins. On les a à tous les niveaux, les appuis, les leviers ou les freins. Mais ceux qui ont le plus de poids, dans le bon ou dans le mauvais sens, sont en haut de la chaîne alimentaire, dans le top management.
Vaut-il mieux créer des petites équipes au risque de multiplier les petits chefs ou faire des réunions d'ensemble régulièrement au risque que cela parte en cacophonie ou que personne n'ose lever le petit doigt ?
Alors naturellement, il vaut mieux créer de petites équipes. Ça n'inclut pas nécessairement d'avoir plein de petits chefs. Au passage, tu peux avoir moins de manager mode leader. Leader dans le sens, j'accompagne, je fais grandir les équipes que j'accompagne. C'est bien mieux d'avoir des petites équipes pour avoir une véritable dynamique d'équipe qui est une vraie dynamique qui existe plutôt que d'avoir tout le monde en râteau et là une problématique de synchronisation et d'interdépendance qui sera catastrophique. Donc ça c'est compliqué parce que en agile typiquement dans ces approches agiles on va demander à avoir des équipes assez hétérogènes mais assez petites pour que la dynamique reste la bonne et c'est difficile de mixer équipes hétérogènes qui répondent aux besoins et assez petites pour garder cette dynamique. Donc, ça ne nous dérange pas du tout d'avoir une équipe qui répond à 70% des attentes, 80% des attentes du produit, du projet, parce qu'on sait que c'est plus difficile de fabriquer cette dynamique d'équipe et on lui donne un projet qui ne lui correspond pas tout à fait que de fabriquer une équipe qui correspond tip-top aux attentes du projet, mais qui va avoir une difficulté énorme à générer cette dynamique d'équipe et se travailler ensemble.
Tu l'as dit tout à l'heure, des fois, il y a quelqu'un qui coince un changement. Toi, comment tu le fais sortir ? Je veux dire, dans les conditions qui soient acceptables dans le droit du travail français. Hein. Je ne parle pas forcément de fusiller en place publique ou dans la BT Cochon.
Alors, ça dépend si la personne, elle coince dans le top management, dans le middle management ou dans les équipes. Si elle coince dans les équipes, d'une part, je pense qu'on hésite beaucoup trop à sortir, entre guillemets, on va voir après ce que ça veut dire, les gens. Alors, ne vous imaginez pas que je pousse à sortir des gens toutes les semaines. Hein. Mais grosso modo, on a facilement 0,5 ou 1% des gens qui ont un vrai problème psychologique et qui sont vraiment toxiques. Eux, il faudrait pouvoir leur dire les choses, mais c'est pas simple. En tout cas, il faut les sortir des équipes. Puis on a des gens qui sont dans les équipes, mais qui devraient être ailleurs. Ils seraient plus heureux ailleurs, eux, ils ne se retrouvent pas dans l'équipe. Et là, faut pas hésiter non plus à demander à l'entreprise qu'ils soient positionnés à un endroit qui leur correspond mieux. Alors, naturellement, c'est un dialogue avec eux, etc. Mais par contre, au bout d'un moment, il faut prendre le temps de l'observation, faut questionner tout le monde, faut voir ce qu'en pense l'équipe, mais il ne faut pas hésiter à demander à ce qu'ils quittent les équipes. Ça fait partie aussi du rôle. Dans le middle management, ça va être plus dur de déplacer les gens, il va falloir aller demander au top management d'avoir le même impact. Et il faut comprendre que le middle management, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a besoin d'être sécurisé. Alors le top management, là on commence à atteindre une problématique, c'est qu'on ne pourra pas les bouger. Par définition, c'est le top management. L'entreprise, elle est ouverte, si elle veut bouger, très bien, elle est arrêtée. Enfin, on essaie de la transformer en quelque chose d'ouvert. Donc là, sur le top management, soit c'est foutu, soit on peut essayer de les confronter à une réalité pour leur faire comprendre peut-être l'urgence qui existe, peut-être, c'est pas sûr, à repenser leur mode de fonctionnement et leur organisation.
Ou la méthode Nissan.
Oh, la méthode Nissan, je sais, non, je veux pas savoir ce qui s'est passé, c'est autre chose, la méthode Nissan, j'imagine que c'est politique, en fait. J'imagine qu'il y a des luttes derrière entre, enfin, je veux pas savoir.
Il y a pas mal d'entreprises qui ont des chefs qui sont des flics.
Attends, tu couperas au montage, mais tu pourrais aussi parler de la méthode Kennedy.
Non, je la laisse.
Non.
Ah si, elle est drôle. Elle est très drôle. Des entreprises ont des chefs qui sont des freak controls. Le micromanagement permet-il de percevoir les signaux faibles de l'immobilisme ?
De quel immobilisme ?
De l'ensemble de la boîte.
Non, le micromanagement est obsolète. Et on doit lutter constamment contre. C'est typiquement un signal très fort d'un besoin de changement de posture pour une entreprise beaucoup plus adaptée au monde actuel. Est-ce qu'il l'empêche de voir l'immobilisme ? Je ne saurais pas te répondre. Ce que je saurais répondre, c'est que le micromanagement travaille beaucoup avec des causes à effet. Je demande ça, j'obtiens ça. Je demande ça, je l'obtiens ou je ne l'obtiens pas. Donc, c'est beaucoup des causes à effet. Et aujourd'hui, on a des systèmes d'organisation qui ne fonctionnent plus avec du cause à effet. On est dans des choses où c'est ce fameux voir le tout complexe et où les causes et effets sont dans une temporalité très différente, où il y a des causes à effet très difficiles à lire. Je peux pas te dire s'il le permet de voir l'immobilisme. Il envoie des signaux brouillés parce qu'il fonctionne à cause à effet à court terme dans maintenant des environnements qui ont une autre temporalité et qui demandent plus d'accompagner un cadre, d'accompagner une direction, une vision et une identité, et c'est plus ce cause à effet aussi court-termiste qui bouffe l'espace, qui mange l'oxygène, et donc du coup on reçoit que des signaux faux en fait quand on fait du micromanagement. On comprend plus ce qui se passe. Tout à l'heure, je te parlais d'injonction paradoxale parce que tu me demandais des provocations. Là, pour le coup, tu vois, j'ai eu des équipes qui ont commencé à mettre des post-it pour expliquer qu'ils allaient aux toilettes tellement ils étaient micromanagés sur leurs tâches. Par exemple, juste pour montrer le signal, de dire, bah, écoutez, puisque vous nous demandez de faire un truc à l'heure près ou aux 15 minutes près, ce qui n'a aucun sens, ce qui est délétère, ben voilà, on va mettre une tâche pour aller aux toilettes. Et c'est
story technique, grosse commission, point d'effort 1.
Voilà, ça c'est une injonction qui montre l'absurdité du système. Tu vois, c'est ça que dans les provocations que je vais, entre guillemets, bien aimer, si la personne ne se met pas en danger, si derrière, la personne qui fait cette provocation ne se met pas en danger. J'en ai une autre que j'ai demandé à quelqu'un de faire, que j'ai proposé à quelqu'un de faire s'il ne se mettait pas en danger. On n'arrête pas de lui demander des dates. Or, tout le monde sait que la date qui est proposée est fausse. Mais l'important, c'est d'avoir la date, comme ça, on peut la transmettre et le messager, c'est bon, ça a été fait. Et elle me dit, mais je perds un temps fou à calculer ces dates qui sont fausses en plus. Je dis, ben oui, t'embêtes pas. Imprime des dates sur des papiers, tu les mets dans un bocal et la prochaine fois qu'elle te demande, tu tends le bocal et tu dis, vas-y, tire une date.
C'est pas mal.
Et c'est pareil, ça c'est une injonction paradoxale. Tu sais qu'elles sont fausses ? Oui, on sait qu'elles sont fausses. Et donc, ben voilà, on gagne du temps, tire-en une. Par contre, je t'ai donné une date, oui, je m'engage, c'est la date que je t'ai donnée. Très récemment, je fais une sorte de restitution d'observation et j'explique aux personnes, bon d'accord, vous, typiquement ils sont au milieu du guet, hein, entre un fonctionnement qu'ils essayent de faire avec ces nouvelles approches agiles et un fonctionnement classique. Et je leur dis, ben, ok, vous avez le pire des deux mondes. Vous êtes au milieu du guet, vous avez le pire des deux mondes parce que les deux sont en affrontement. Et vous faites du management visuel, mais vous m'affichez des gants, des rétro-planning. Enlevez-le, mettez des cambans, hein, c'est bien mieux. Et arrêtez d'estimer. Ah, mais non, mais le rétro-planning, c'est très utile pour savoir où on en est et pour pouvoir dialoguer avec nos sponsors. Mais vos rétro-plannings sont faux à 80%. C'est ce qu'on a dit il y a 10 minutes. Oui. Et donc, vous affichez des choses fausses à 80% au mur. Oui. Enfin, ouais, c'est ce type de confrontation, s'il n'y a pas de sang, si personne n'est mis en danger, qui, à mon avis, est nécessaire quand on veut faire bouger des lignes. C'est ça qu'un ami a appelé l'engagement par la provocation, ou un peu jouer sur l'absurdité. Hein. Moi, j'ai fait des études d'histoire du cinéma et j'ai beaucoup travaillé sur le non-sens et l'absurde. Tu parlais de Groucho et des Marx Brothers. Ça m'aide beaucoup aujourd'hui dans les organisations.
C'est vrai que les Marx Brothers, dans l'absurde, c'est pas mal. Et pour mettre le bazar dans une organisation, ils étaient très forts, du moins dans les films. Quelle est la spécificité française qui fait qu'on a de très grandes entreprises, mais pas de champions du numérique? Alors, pas les champions qu'on mériterait, c'est-à-dire que des ESN et des champions des armes numériques.
Alors là, on sort complètement du sujet agile, à mon avis. Les problèmes, alors je réponds d'abord les problèmes que je rencontre au niveau agilité. Bon, naturellement, c'est la France, et après j'essaie de répondre plus globalement ce que je ressens, parce qu'à mon avis, c'est un truc politique plus global. Bon, naturellement, les Français, on a l'esprit cartésien, donc on pense qu'on peut tout prévoir et qu'on peut tout assembler. C'est obsolète aujourd'hui, on a ce problème-là. Et on a la problématique que être un chef, c'est une hiérarchie et c'est avoir des gens à ses ordres. Et ça aussi, c'est obsolète. Donc ça, c'est nos deux gros problèmes. On a une qualité qui est un défaut, c'est on aime quand même justement cette perfection. Donc on va chercher des choses, donc on est inventif, donc on a de l'innovation. Mais on a le défaut de cette perfection qui est que on veut tout et on veut tout de suite. Sur les approches agiles, je peux être un peu plus avoir plus d'expérience que d'autres sur ce sujet-là, j'en aurais pas forcément. Je dirais que on a quand même un problème de comment est-ce qu'on appelle ça déjà des Florentins entre guillemets, je sais pas si c'est la bonne expression ou pas, mais on a beaucoup de protectionnisme entre écoles et on ne s'autorise pas comme peuvent le faire les Américains à laisser vraiment une chance égale à tout le monde. Et on a beaucoup de protectionnisme, le système protège beaucoup les gens en place et on ne s'autorise pas assez à donner sa chance aux gens qui ne sont pas en place. Puis après, on a le français étant dans la perfection, sa qualité, c'est de toujours chercher à améliorer les choses. Son inconvénient, c'est toujours penser qu'il n'y est pas et de ne pas être content de ce qu'il a. Donc du coup, on va pas être les meilleurs, on va pas fanfaronner. Et peut-être que si on regarde les faits, on a largement autant de réussite que n'importe quelle autre culture, pays, etc.
Pablo, merci beaucoup de tes grands enseignements révolutionnaires, de toute ta sagesse des foules à nous transmettre.
Écoute, Daskritch, c'est moi qui te remercie. Je vais retourner à mon rhum, mes cigares, ma salsa et mes bombes artisanales.